Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Et dans la série Donald Trump et le monde, Thierry Garcin, aujourd'hui il s'agit de Donald Trump et de l'Afrique subsaharienne.
Voilà Émilie Chaudet avec notre invité Philippe Hugon qui est en ligne, bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis sûr que vous êtes là.
Philippe... Oui, je suis là.
Ah, très bien.
Vous ne m'entendez pas?
Si, si, voilà. Mais vous êtes, voilà, vous êtes économiste. On peut donc saluer la sortie de votre ouvrage chez Erol, l'Afrique, défis, enjeux et perspectives en 40 fiches, 3 ou 4 pages sur chaque thème pour comprendre l'actualité. Il va y avoir un sommet franco-africain au Mali vendredi et samedi. Puis, dernière précision, comme l'a dit Émilie, on les retrouvera sur notre site internet franceculture.fr. Nous avons parlé de Donald Trump et l'Europe et la France et l'Amérique latine, aujourd'hui et l'Afrique, la semaine prochaine et l'Asie. Il faudra évidemment parler de Donald Trump et la Russie. Alors naguère, les experts soulignaient que les États-Unis n'avaient jamais eu de véritable politique africaine, même changeante, que l'Amérique était en déficit de vision globale et que durant les rapports Est-Ouest, les États-Unis s'engageaient surtout dans des conflits où l'on retrouvait l'URSS et ses alliés, c'est-à-dire c'est essentiellement la RDA et Cuba. Il faudrait faire un bilan des deux mandats Obama, on n'en aura malheureusement pas le temps. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que nous révèlent les propos du candidat Donald Trump et du président élu Donald Trump, compte tenu que celui-ci a souvent dit sur beaucoup de choses tout et son contraire, et que ses équipes, en supposant qu'elles soient qualifiées in fine, ses équipes sont loin d'être en place. Alors, quel regard peut-on porter sur ce qu'a dit sur l'Afrique Donald Trump, Philippe Hugon ?
Alors, effectivement, il faut être extrêmement prudent, non pas sur ce qu'il a dit, mais sur le lien entre ce qu'il a dit et ce qu'il veut faire. Il y a plein de contradictions, il y a plein d'incertitudes. Ce que l'on peut dire globalement, c'est que l'Afrique n'est pas du tout sa priorité. Ça, c'est assez clair. Il a tenu, bon, des propos assez méprisants, voire racistes. Ça pèsera ou ça ne pèsera pas. Il a plutôt défendu les hommes forts en Afrique, et d'ailleurs, il a reçu au départ le soutien d'hommes qui sont loin de la démocratie, comme Nkurunziza au Burundi ou Kabila en RDC. Ce que l'on peut dire, c'est qu'évidemment, il est quand même obligatoirement dans la continuité de la politique traditionnelle à la fois des démocrates et des républicains américains, c'est-à-dire lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire sécurité énergétique et troisièmement marché et démocratie, mais avec quand même une forte inflexion. On voit bien que sa priorité à la démocratie en Afrique n'est pas du tout celle d'Obama et qu'il préfère des hommes avec lesquels il peut négocier et avoir des affaires que ceux qui défendent la liberté et les droits des peuples à voter, etc. Ça, là-dessus, il y a sûrement un élément, disons, d'inflexion. Il y a également le fait que sur le plan migratoire, il a quand même une politique America First. Il faut quand même ne pas voir que la question des Mexicains. Il y a aussi la question des immigrés et des différents réfugiés qui viennent d'Afrique. Et très nettement, il aura une politique beaucoup moins ouverte que celle d'Obama sur ce plan.
Alors en même temps, Philippe Hugon, c'est dans une tribune d'ailleurs de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, en date du 14 novembre 2016, je pense qu'on doit la retrouver sur notre propre site, vous dites que la politique africaine des républicains et des démocrates est historiquement proche, avec des priorités, en fait, lutte contre le terrorisme, c'est une priorité politique, mais avec aussi essentiellement des priorités économiques au fond.
Oui, tout à fait. Il y a priorité économique. Ceci étant, il y a quand même des inflexions sur l'extension à la fois des marchés et sur l'extension de la démocratie, notamment ce qu'on appelle l'AGOA, qui était largement soutenue par Obama, même si on ne peut pas dire qu'Obama avait une politique très très favorable à l'Afrique, en tout cas où l'Afrique était une priorité. Et là, vraisemblablement, il y aura une inflexion. C'est-à-dire, d'une part, l'AGOA, qui est quand même un accord de non-réciprocité entre les États-Unis et l'Afrique, va peut-être être mis en question, ça c'est un point d'interrogation, en tout cas ne sera sûrement pas conditionné comme avant à un certain nombre de respect des droits de l'homme.
Alors, il y a une chose, d'ailleurs, il y a une carte intéressante dans votre ouvrage, l'Afrique chez Erol, il y a une chose à laquelle on ne pense pas, c'est l'Afrique et le climat. Alors, on sait évidemment qu'il est plus qu'eurosceptique Donald Trump, au moins dans ses déclarations. En quoi est-ce que ça concerne l'Afrique ?
C'est l'Afrique qui est évidemment le plus concernée par les effets du réchauffement climatique, notamment l'Afrique du Nord, l'Afrique sahélienne, moins l'Afrique équatoriale. Et il est évident que dès lors qu'on a une priorité qui est redonnée à un modèle carboné, à un modèle énergivore, qu'éventuellement on remet en question l'accord de la COP21 sur le climat, il est évident que ceci ne peut qu'accroître la situation des pays africains, et on le voit bien que beaucoup de problèmes, notamment du Sahel, beaucoup de problèmes des zones où il y a de la conflictualité et de la violence entre populations, je ne parle pas du terrorisme, je parle des violences entre populations, éleveurs, agriculteurs, etc., est largement lié aujourd'hui à des questions climatiques. Donc, être climato-sceptique et remettre en question l'accord éventuellement de la COP21, ce qui a été envisagé, c'est évidemment excessivement nuisible, non pas immédiatement, non pas dans le court terme, mais par rapport à un projet de moyen et de long terme, et c'est l'Afrique qui subit le plus les effets des changements climatiques.
Alors Philippe Hugon, il y a aussi évidemment, je parle à l'économiste que vous êtes, la question de l'aide publique au développement. Donc on sait que les Européens sont très en flèche depuis toujours, essentiellement le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, en fonction évidemment de la taille de leur PNB, puis de beaucoup de petits pays qui donnent d'ailleurs plus que ces grands pays en Europe, mais ils ont un tout petit PNB. Alors en revanche, on est toujours frappé par le fait que les États-Unis n'aident pas vraiment l'Afrique.
Oui, alors il y avait eu quand même là encore des progrès, même malgré les réticences d'Obama d'apparaître trop proche de l'Afrique, il y avait eu des progrès quand même au niveau de l'aide américaine. Le Millennium Challenge Corporation a développé quand même un appui important, mais l'a fait sous conditionnalité justement d'extension des marchés et de respect de la démocratie, donc avec des conditionnalités. Il est certain que si la politique économique de Trump et celle qu'il a annoncée, c'est-à-dire à la fois très forte baisse de la fiscalité pour attirer les capitaux et retenir les entreprises multinationales ou nationales, et deuxièmement, très forte augmentation des dépenses publiques, il est évident que les marges de manœuvre seront plus faibles et que la priorité ne sera pas vis-à-vis de l'augmentation de l'aide publique au développement. Ce que l'on peut dire simplement, c'est que ça sera une vision peut-être plus sécuritaire, puisque seront maintenues, bien entendu, la priorité de lutte contre le terrorisme, qui est assimilé largement au djihadisme, et d'autre part, qui concerne notamment la lutte contre Boko Haram, qui concerne la lutte contre les différents mouvements ACMI, Al-Qaïda, Maghreb, dans les pays sahéliens, et qui concerne les Chebabs en Somalie. Donc, de ce point de vue-là, il y aura un maintien de la politique sécuritaire américaine. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Par contre, il est vraisemblable que l'aide sera réduite d'une part, et que surtout, elle ne sera plus conditionnée à un certain nombre de conditions démocratiques.
Juste d'un mot, on arrive au terme, Philippe Hugon. En ce qui concerne aussi les aides aux pays européens intervenant militairement en Afrique, on pense tout de suite, évidemment, un tout petit peu au Royaume-Uni, mais surtout beaucoup à la France et les États-Unis, en toujours aidé beaucoup, renseignements, logistique, avions de transport militaire, etc. Les opérations françaises, quid de cet aspect, mais vraiment quelques mots.
Bah écoutez, moi je pense que la question de la priorité de la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire non, l'action militaire et pas action contre le terreau du terrorisme ou de la violence, c'est-à-dire en gros le développement économique et l'emploi et la perspective pour les jeunes, je pense que cette lutte sera maintenue. Et donc les États-Unis vont augmenter leurs dépenses militaires, ça a été également annoncé, et je pense continueront par contre leur appui logistique, leur appui en termes de renseignement. Ils ne seront pas présents au sol, ils ne le sont que par des forces spéciales, mais ils continueront, je pense, d'appuyer notamment les forces françaises présentes en Afrique.
Merci beaucoup Philippe Hugon, donc économiste et donc franceculture.fr pour écouter l'émission et toutes les émissions consacrées à Donald Trump et le monde. Elles sont, je viens de vérifier, sur le site, tout de suite accessibles d'un clic.
Et demain, Thierry, il sera question de la Libye.
Voilà, merci Philippe Hugon. De la Libye, quel scénario possible pour sortir du chaos, quel scénario au pluriel, point d'interrogation, et notre invité sera Monsef Jaziri, professeur à l'Université de Lausanne.